qui me faisait le plus peur en arrivant, c'était de me dire je vais vouloir aller trop vite et je vais un peu casser le jouet. Et donc la manière d'adapter la vitesse du changement, c'est un, de démarrer avec des choses un peu inattaquables, et deux, d'embarquer le top management. Donc, c'est d'avoir dans le top management des gens qui étaient d'accord avec le diagnostic. Est-ce qu'on est d'accord que si on veut continuer le scale, qu'on veut écrire l'histoire qu'on a envie d'écrire, il va falloir qu'on mette un tout petit peu plus d'huile de coude.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France.
Julien, cofondateur d'XMakers.
Emeric, partenaire chez Raise.
Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle.
Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexandre Fretti, le co-CEO de Malte. Bienvenue à toi.
Bienvenue, merci.
Salut Alexandre. Salut Alex.
Donc, je vais essayer l'exercice périlleux de résumer Malte à la place du CEO. Reprends-moi si je dis des bêtises. Donc, si vous êtes le leader européen des plateformes de matching de freelance avec les entreprises, vous existez depuis 10 ans maintenant, vous accompagnez des centaines de milliers de freelance. Vous avez l'année dernière fait un volume d'affaires de 650 millions d'euros pour 60 000 clients, de l'ETI à la très grosse entreprise à la toute petite entreprise. Vous êtes 700 et vous avez une croissance de 100% depuis 3 ans chaque année, ce qui fait que, entre autres, vous avez rejoint le Next 40 en 2022. Félicitations.
Merci, la présentation est quasi parfaite.
Ok, donc aujourd'hui on est dans un numéro expert, parce que toi Alexandre, tu es arrivé il y a 2 ans en tant que...
3 ans.
3 ans en tant que directeur général aux côtés de Vincent Huguet, qui était le CEO. Et on a envie de creuser cette aventure qui est en fait challenging et exceptionnelle de « je suis un CEO qui n'est pas fondateur, mais qui du coup est venu pour faire un clic de scale ». On est dans un podcast sur le scale et on va creuser tout ça avec toi.
Si t'es d'accord. Plaisir. Voilà.
Tu peux encore t'enfuir, mais c'est en direct, donc c'est un peu un numéro.
La porte est fermée.
C'est pas encore fermé.
Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ta formation, qu'on comprenne un petit peu où tu te situes et qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé à ce job.
Oui, tout à fait. On a une heure devant nous, c'est ça, pour le préambule.
Ouais.
voilà.
Moi, j'ai un parcours très traditionnel jusqu'à 27 ans, à savoir que... Comme beaucoup, au lycée, je n'étais pas mauvais en sciences, donc j'ai fait une prépa scientifique. J'ai fini en école d'ingénieur, sans savoir ce qu'était que le métier d'ingénieur. Et au sortir de mon école, je savais que le métier technique n'était pas tellement fait pour moi. J'ai fait une école d'ingénieur en télécom. Et en 2003, quand je sors de mon école, les télécoms, c'est la crise. J'étais un bon provincial qui voulait absolument éviter Paris.
Tu étais où ?
J'étais chez France Télécom Longue Distance dans mon stage de fin d'études et à l'école à Brest, Télécom Bretagne. Et
au 29.
Au 29, tout à fait, à Plouzané.
Le vrai breton.
Locmaria.
Voilà, et donc après avoir fait Strasbourg, Brest, Toulouse pour éviter Paris, j'ai fini chez Deloitte à Paris, dans le conseil, et j'ai fait Deloitte puis McKinsey, dans un début de carrière qui est une carrière de non-choix en fait. Tu te laisses porter par le vent et tu te fermes le moins de portes possible. Et donc, c'est un petit peu comme aujourd'hui quand je reçois quelqu'un d'école de commerce qui a fait 3 stages en audit, en banque d'affaires, en conseil. C'est ce que j'aime le moins parce que ça montre que tu ne sors pas des sentiers battus. Et moi, je ne sortais pas des sentiers battus, donc j'étais exactement aussi ce profil de gens qui voulaient surtout suivre la parfaite ligne. Et finalement, mon parcours a bifurqué à 27 ans quand j'ai choisi de quitter l'environnement shiny, sexy de McKinsey pour rejoindre une petite boîte dans un secteur pas sexy du tout, qui était les call centers. Et donc, j'ai rejoint Webhelp en 2007.
Très belle boîte.
Petit acteur français, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec 2 fondateurs qui m'ont donné envie de les suivre, et je ne pensais pas y passer autant de temps, mais j'y suis resté 12 ans, 4 LBO, vu de l'intérieur un scale extrêmement fort, de 30 millions jusqu'à quasiment 2 milliards. Milieu de tout ça, avant de passer DG dans cette boîte, j'ai voulu faire un break. Et le break que j'ai choisi de faire, alors c'est pas d'aller faire un tour du monde, mais je suis parti faire un executive MBA à Stanford. Et ça a été un moment d'introspection assez fort. Et
c'est
finalement,
exactement
c'était
exactement ce que j'imaginais comme break. Mais...
Ouais, ouais. Moi aussi, je pensais. toi, tu fais un pique-nique break.
Ouais, c'est costaud le break.
Ouais, c'est effectivement costaud, mais vraiment, vraiment le point de départ aussi de mon nouveau départ, qui était le fait de quitter cette aventure incroyable. Je faisais partie des murs pour rejoindre Malte. J'avais adoré cette histoire Webhelp pendant 12 ans. Je l'ai vécu un peu en première rangée dans l'avion. Je me suis dit, cette histoire est dingue, mais j'aimerais bien en vivre un truc au moins aussi dingue, un peu plus dans le cockpit. Et donc, je cherchais un job de direction générale, on va dire, pour être assez direct. Et avec finalement avec pas mal de réticence sur la capacité à trouver le bon point de chute. Parce que j'avais identifié, on y reviendra peut-être, que c'est très compliqué d'arriver dans une équipe déjà existante. Qui plus est, quand il y a une équipe de fondateurs forte qui a déjà écrit une histoire incroyable. Et j'ai eu la chance, on reviendra, de tomber sur donc, le fondateur que tu as cité, Vincent, qui avait fait son chemin pour justement être prêt à accueillir quelqu'un. Après, rester à savoir quel était ce quelqu'un et comment ça allait marcher. Et donc, j'ai rejoint Malte il y a 3 ans en tant que DG et en tant que co-CEO depuis 6 mois.
Comment juste s'est fait par curiosité rapidement la rencontre, du coup?
Écoute, l'histoire est assez drôle, c'est que moi, en fait, j'ai passé des entretiens en même temps et chez Malte et chez Doctolib à l'époque, chassé par Doctolib, et j'ai reçu un LinkedIn email direct de Vincent Huguet. Je l'ai su une fois que j'avais dit oui, mais en fait, c'est que son cabinet de chasse qui était en charge de la recherche du DG travaillait aussi pour moi chez Webhelp. Donc, au moment, la chasseuse a dit à Vincent, écoute, tu devrais écrire directement à Alexandre, parce que je le trouvais un peu particulier. Il m'a envoyé un message assez direct en disant, est-ce que ça te dit de prendre un petit déj? On m'a parlé de toi.
Vrai entrepreneur. Voilà,
exactement. Donc, on s'est retrouvé à l'hôtel Intercontinental Ruscrib fin août, juste après l'été. Et j'ai envie de dire, il y a eu un peu un coup de foudre sur les 3 premiers quarts d'heure, sur le fait que moi, j'ai embrassé complètement cette histoire d'une boîte qui est sur un marché incroyable, avec un produit incroyable, mais avec énormément de choses à faire devant lui. Une boîte qui a une culture B2C très forte, un ADN B2C des deux fondateurs, une entreprise qui a démarré dans le monde du SMB et qui avait compris peu de temps avant mon arrivée que l'hyperscale allait venir du corporate. Et donc, Vincent et le board avaient identifié le fait qu'il fallait faire venir quelqu'un qui avait vu ce scale et qui connaissait l'environnement B2B grand corporate. Ça faisait 1 an qu'il cherchait au moment où on se voit. Et donc, voilà comment ça a démarré, en tout cas.
On peut peut-être continuer à creuser là-dessus, c'est un point intéressant, tu le disais toi-même, finalement les fondateurs c'est pas facile pour eux parce qu'ils ont créé la boîte, ils ont leur vision, puis tout d'un coup, il y a un moment ils doivent se dire, ok, est-ce qu'on prendrait pas quelqu'un Si tu avais un peu un conseil à donner, c'est quoi les tips pour que la greffe se passe bien?
Je pense qu'il y a un premier sujet, et c'est pour ça que moi, je n'étais pas extrêmement confiant au fait de trouver un job. C'est que le premier sujet, c'est l'ego du fondateur ou l'ego des fondateurs.
C'est pas un peu logique, monter la boîte.
Oui, parce que tu arrives un peu plus tard. Quoi.
Exactement, premier élément. Deuxième élément, on est quand même dans un écosystème depuis 10 ans où on a bien ciré les pompes de toutes ces entreprises en expliquant qu'on pouvait devenir très rapidement une licorne. Et donc, c'est grisant pour les fondateurs aussi. Et donc, on peut vite avoir la sensation finalement que tout ce qu'on touche se transforme en or. Et donc, ce sujet d'ego est un premier sujet. Vincent Huguet, c'est quelqu'un, quand il crée Malte, il a quasiment 40 ans. Au moment où il me rencontre, il a plutôt 45 ans. Donc, il a du vécu, il a des cicatrices il a envie de construire quelque chose qui est plus grand que lui. Donc, je veux dire, le moteur principal de Vincent Huguet, ce n'est pas son ego, c'est le fait d'écrire une histoire qui va changer le monde. Ça peut paraître un peu basique, mais c'est la réalité. Et donc, le premier élément...
Ce n'est pas toujours le cas dans les boîtes tech. Hein.
C'est assez rarement le cas, pour être assez direct.
C'est bien de le dire, tu vois.
Exactement. Et donc, c'est rendre hommage là-dessus. Et moi, la première fois que je le vois, il me dit, au bout de 20 minutes, je cherche quelqu'un qui sache faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Voilà, je ne sais pas si beaucoup de fondateurs aujourd'hui de Scale-Up, beaucoup d'humilité. Mais beaucoup d'humilité couplée à une ambition phénoménale et tout en disant, j'ai envie qu'on bosse ensemble parce que je pense que c'est tous les deux.
Ouais, donc il y a eu un gros fit entre vous deux. Quoi.
Alors le gros fit, il y a eu effectivement ce premier petit coup de foudre et après...
Ils étaient deux à la...
Alors oui, Vincent et Hugo, ils étaient même 3 à l'origine, mais le troisième, moi, je n'ai jamais connu, il est parti très tôt dans l'histoire. Et Hugo Lassiège, c'était lui un freelance, originellement, développeur Java, et aujourd'hui, c'est toujours le CTO de l'entreprise. Donc il avait un rôle important, mais le CEO c'était Vincent et c'est essentiellement avec lui que j'ai échangé dans cette phase préliminaire. Et dans cette phase préliminaire, je veux dire, c'est comme dans un couple, on a passé énormément de temps ensemble avant de savoir si on voulait habiter ensemble. Et ensuite, on a habité ensemble avant de savoir si on voulait se marier. Le mariage était un peu le fait de passer de DG à co-CEO. Et donc, lui, de son côté, a fait énormément de ref-check dans tous les sens pour être sûr, justement, que la complémentarité, elle était réelle. Donc, moi, les tips, c'est déjà passer du temps ensemble parce que ce n'est pas juste 2 CV qui sont complémentaires. Faut avoir envie de bosser ensemble, faut se respecter l'un l'autre.
Mais t'avais passé du temps avant de le voir? Tu l'as revu plusieurs fois avant de décider, avant de dire oui?
On s'est vu 7 ou 8 fois.
Ah oui.
Dans des cadres formels, dans des cadres informels. Il y avait à l'époque, bien connu dans le monde de la French Tech, Antoine Freys, qui était au board de Malte. Antoine Fraisse, il a écrit d'ailleurs un livre sur le recrutement. Et l'entretien le plus difficile que j'ai eu, c'était avec Antoine Fraisse. C'est-à-dire, et Vincent était là dans la salle, 3 heures, avec un fichier Word où pendant 3 heures, il
s'est processé.
Ah ouais, 3 heures, boum. Tu sors, t'es sonné. Tu es
sorti de là en me disant, au bout d'un moment, dites-moi ce que vous voulez de plus. Mais voilà, j'ai été un peu mis à nu. Mais a posteriori, effectivement, c'était vraiment pour valider le fait que la complémentarité allait
En aparté, je serais curieux de savoir ce qu'il te pose comme type de questions sur 3 heures.
J'avoue que je m'en souviens même plus dans le détail, mais il descend très, très. La technique des 5 pourquoi, de vraiment avoir des exemples, à la fois en tant que manager, comment tu inspires les gens, comment tu gères des situations difficiles. Je ne vais pas dire qu'il y a des sujets extrêmement originaux, sauf que sur un sujet où nous, en entretien, on va tous poser une autre question, lui va en poser 10.
C'est la méthode pour recruter les meilleurs.
Exactement.
Chez Erol.
Exactement.
Ah ouais, donc il y a un livre qui existe avec la méthode.
Il cite Malte d'ailleurs dans son livre.
Donc là, tu passes entretien, etc. Mais ça, c'est la première étape. Et après, du coup, tu.
Et en fait, moi, après la première étape, je sais que je veux quitter Webhelp, mais je ne sais pas forcément que je veux rejoindre Malte. Mon premier réflexe, au moment où Vincent Huguet me contacte, je ne connais pas Malte. Je ne connais pas Vincent Huguet. Et quand je le vois, je trouve ça sympa, mais je trouve que la boîte est un peu petite. J'avais en tête quelque chose d'un peu plus gros. Et donc, lui, assez malin, me dit: bon, écoute, moi, je pense que ça peut marcher. Ça ne t'engage à rien, mais rencontre un actionnaire. Puis il rencontre 2 actionnaires, puis 3 actionnaires. Donc il m'a fait rencontrer l'ensemble du pool d'actionnaires qui ont tous très bien joué leur rôle pour bien donner envie. Et après, une fois que j'avais rencontré les actionnaires, il m'a dit: bon, ça t'engage à rien, mais rencontre mon top management. Donc en fait, mon process, c'est pour ça que je l'ai vu aussi 6 ou 7 fois, c'est que ça a duré 3 mois. Et j'ai eu le temps, moi aussi, de faire le chemin pour me dire, je cherchais un peu, encore une fois, dans le parcours originel qui était le mien, qui est celui de beaucoup de gens, qui disent: tu veux faire les trucs qui sont un peu conformes à ce que tu dois faire. Je dis, je vais trouver un red flag à un moment donné. Je cherchais vraiment le red flag en me disant, voilà, ce truc-là fait que tu ne dois pas rejoindre Malte. Mmh. Et au bout de 3 mois, j'ai dit, non, mais attends, il n'y a pas un red flag, c'est même un gros green flag. Donc il faut jumper, il faut quitter cette aventure de 12 ans incroyable chez Webhelp.
C'est intéressant, qu'est-ce que toi tu cherchais, est-ce que lui cherchait? Vous avez passé beaucoup de temps à essayer de vous connaître. Toi, forcément, tu veux trouver ta prochaine opportunité, tu veux valider le marché, la boîte, le positionnement, le business model. Et lui, qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi il y a un moment il a envie de faire venir quelqu'un?
Ce qu'il cherche, c'est qu'il le dit très limpidement lui-même, c'est-à-dire que manager les équipes commerciales, il l'a fait, mais ce n'était pas sa zone de plaisir ni sa zone d'expertise. La connaissance des corporates, je l'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas sa zone d'expertise ni sa zone de confort. Manager la boîte au quotidien, c'est pareil, il l'a fait. Donc, il avait envie de se concentrer là où il était très fort. Et là où il est très fort, c'est sur la vision produit, sur le fait de justement driver cette boîte qui est une boîte tech, même si elle a un écosystème très serviciel. Et donc, il avait identifié qu'effectivement, lui voulait se concentrer sur là où il avait vraiment le plus d'impact et trouver quelqu'un qui allait prendre un peu plus le run de l'entreprise au jour le jour. Et donc, c'était vraiment ça que lui recherchait. Et moi, ce que je recherchais de l'autre côté, c'était d'être certain que le discours d'avant-vente était le même que l'après-vente. Donc, c'est pour ça que tu passes du temps. C'est parce qu'au début, tu te dis, bon, peut-être qu'il dit ça parce que ses actionnaires lui ont demandé. Donc, t'es méfiant. Et moi, j'ai demandé beaucoup de... Parce qu'on dit toujours, les déclarations d'amour, c'est bien, mais on préfère des preuves d'amour. Encore une fois, c'est comme dans un couple. Et donc, je lui ai demandé des preuves d'amour. Et les preuves d'amour qu'il m'a envoyées, c'était de m'envoyer concrètement l'organigramme le jour de mon arrivée. Où là, on voyait Vincent Huguet, il n'y avait plus que 25% de l'entreprise qui lui était rattachée, 75% chez Alexandre Fritz. Bon, voilà, ça, c'est comme ça, il ne va pas faire l'inverse 3 jours après. Aussi sur les recrutements, sur la capacité à changer les choses. Donc, moi, j'ai beaucoup de challenges, c'est quelle est la marge de manœuvre je vais avoir, même s'il est prêt à laisser la main. C'est pas si évident. Et ce qui a aidé, le dernier élément, c'est que lui était parti vivre à Munich pour ouvrir le marché allemand. Et donc, au moment où moi, je suis recruté, même si je ne le sais pas à ce moment-là et ça va être pendant le confinement, au moment où je prends ma décision, lui est en Allemagne et je sais que je serai, entre guillemets, seul au siège parisien.
Ouais. Donc, dans les tips, il y avait quand même être très très clair sur l'organigramme, la gouvernance de demain.
Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup et donc effectivement, c'est hyper important et même pour la communication interne. Parce que le risque aussi, on le savait, et ça pour le coup, on l'a traité ensemble, c'est que quand il y a un greffon comme ça qui arrive dans l'organisation, ça ne va pas forcément plaire non plus à tout le monde. Et puis, il y en a certains qui pourraient essayer de jouer entre l'un et l'autre. Et donc, il fallait qu'on soit ultra alignés dans les premiers mois de gouvernance ensemble.
Et c'est pas comme à l'école, tu n'as pas une heure pour t'imposer quand tu arrives dans la salle de classe, quoi. C'est plus compliqué que ça.
Tu te dévoiles, mon Julien. Encore une fois, un peu plus chaque épisode, vous connaissez un petit bout de Julien.
C'est un bon point. Tu peux peut-être revenir sur tes 100 premiers jours, quoi. Quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ouvert les placards.
Une émeute.
Comment tu fais pour pas tout casser et en même temps pour...
C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile parce que quand on arrive et on sait qu'on est attendu pour du changement. Enfin, quand
y a un... J'imagine qu'il y en a qui visaient le poste en plus. Hein.
Et alors, il y en a qui étaient effectivement potentiellement légitimes pour avoir le poste. Mais en l'occurrence, le plus légitime pour avoir le poste est un de celui qui m'a le plus facilité la tâche. Donc ça montre aussi dans la culture de l'entreprise où je disais que Vincent, c'est quelqu'un d'extrêmement humble et terriblement ambitieux. C'est aussi ce qui caractérise la culture de la boîte. Et donc, mon arrivée chez Malte a été assez facilitée par cette culture où j'ai pas eu l'impression de recevoir des pots de banane de gens qui voulaient que j'échoue. Et donc, sur les 90 premiers jours, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais identifié, comme beaucoup de start-up scale-up, les fondateurs, ils sont plutôt anti-process. Ils adorent le chaos créatif, mais Malte arrivait à 150, 200, 150 personnes quand j'arrive. Il fallait mettre de la structure. Il fallait mettre aussi une culture de l'exigence. Et donc, au bout de 30 jours, en fait, je n'ai même pas attendu les 90 jours, j'ai fait un petit débrief au top management et puis après même en all hands avec l'ensemble des salariés, qui n'est pas tout à fait le même, mais globalement avec les mêmes éléments de langage, avec un premier sujet qui était autour de la structuration. Donc, moi, je considère qu'on ne peut pas réussir un grand scale s'il n'y a pas deux fonctions qui sont très fortes dans l'entreprise et pour le coup très processées, alors que je ne suis pas un homme de process, que sont les RH et la finance. J'ai vraiment fait step up la RH et la finance, le processus de performance management.
Qu'est-ce que ça veut dire, processer la RH et la finance ?
Ça veut dire que quand tu n'aimes vraiment pas les process et que tu penses le chaos créatif, c'est bien, tes ressources humaines, c'est bon, si les gens ne font pas tous leurs évals, ce n'est pas très grave. L'enquête collaborateur, s'il n'y a qu'une personne sur deux qui répond, ce n'est pas très grave. Et donc, moi, les ressources humaines, c'est un peu le backbone de l'équité, de la vérité, et la fonction finance aussi. Donc, d'être très fort et d'avoir des process extrêmement codifiés, rigoristes et extrêmement suivis, j'ai mis énormément d'énergie à dire, le process de performance management, c'est un des process les plus importants de l'entreprise, parce que ça montre qu'est-ce qu'on attend des gens, comment est-ce qu'on évalue l'adéquation avec la culture, comment est-ce qu'on s'assure de l'équité d'une équipe à une autre. Et donc, ça demande d'avoir des process un peu lourds, et donc on a passé pas mal de temps là-dessus. La structuration s'est passée aussi, quand j'arrive, il n'y a pas de comité exécutif chez Malte, parce que c'est un truc de grosse boîte. Et donc, j'ai aussi amené le sujet de manière un peu différente. On va faire un COMEX, non pas pour copier les grosses boîtes, mais c'est parce que je me rendais compte, moi, dans mes 30 jours d'observation, que souvent les équipes me disaient sur tel sujet, on sait que Vincent, il a envie de faire ça, mais Hugo, il peut plutôt faire ça, et puis Quentin, il a plutôt envie de faire ça. Puis je dis, du coup, faites quoi? Il dit, on sait pas, on fait. Et donc, je suis allé voir les deux fondateurs et je leur ai dit, on va créer un COMEX, non pas pour, encore une fois, copier des choses que vous n'aimez pas, mais juste pour s'aligner et mettre sur table les désaccords. Et les désaccords, on va les traiter, quitte à ce que ce soit un peu dur, parce que aussi, quand il y a une équipe de fondateurs un peu historique, au bout d'un moment, c'est comme dans un couple, on essaie d'éviter les conflits, et je pense que c'est pas une bonne méthode, et donc il faut y parvenir. Donc vraiment, le premier sujet, la structuration. Le deuxième sujet, ça a été autour des équipes commerciales, qui est là où, le sujet sur lequel j'ai passé le plus de temps en arrivant. Donc là, c'est passé de la refonte du pitch commercial, la refonte des incentives des gens. Mais les sales chez Malte étaient payés tous les mois avec un variable tous les mois, un peu comme un vendeur de voiture. On a dit, au bout d'un moment, on a un business, nous, qui se fait sur 18 mois, 2 ans, et on rémunère les gens au moins le mois. Donc forcément, l'incentive n'était pas du tout adéquate par rapport au business model de l'entreprise. Et sur le dernier sujet, qui est la culture de la bienveillance ou de l'exigence, la boîte était très bienveillante. J'ai souvent, dans les scale-up françaises, il y a deux cultures extrêmes qui sont celles que j'essaye d'éviter d'avoir, à savoir soit des cultures un peu roquettes internet, donc très tough, soit des cultures plutôt Club Med,
très cool. Ouais, c'est pas de copinage, quoi.
McKinsey, exactement. Je pense que
ça porte un nom, d'ailleurs, ce type de management là. C'était un peu la mode, le management un peu libéré,
l'entreprise
libérée.
Oui, exactement. Et donc je pense que la bonne ligne de crête, c'est la ligne de crête sur laquelle les deux jambes sont aussi fortes, c'est-à-dire effectivement, faut être extrêmement bienveillant, mais être exigeant, c'est aussi être bienveillant avec les gens. Donc on a beaucoup travaillé cette culture de l'exigence individuelle et collective. Qui ne sont pas des sujets toujours simples, parce que ça veut dire aussi savoir de se séparer des collaborateurs qui ont fait le scale de 0 à 150 mais qui ne sont plus là pour faire le 150 à 500, et ça demande effectivement de changer un peu le mindset.
Une question qu'on se pose souvent d'ailleurs par rapport à ce que tu dis, donc tu as connu cette croissance super importante, tu travailles avec des clients, est-ce que, tu vois, en France, j'ai l'impression qu'on a du mal à faire des vrais ETI, à faire des vraies grosses boîtes, quoi. Enfin, en plus, moi, je connais bien l'écosystème PME à titre personnel, et on a du mal à faire ce step-up là. T'arrives, toi, à l'expliquer pourquoi, culturellement ou en termes de marché, on n'arrive pas à faire ça? Parce que, du coup, vous y arrivez, vous.
À l'exception, effectivement, maintenant, de la French Tech qui fait un peu exception à ça pour certaines d'entre elles. Je pense qu'historiquement, et on compare souvent la France avec l'Allemagne, et quand j'étais, je mentionnais que les deux mois que j'ai eu à Stanford étaient assez intéressants là-dessus. Il y a eu un professeur américain qui donnait une explication culturelle à cela, en disant aux États-Unis, On a toujours envie d'être le premier, quelle que soit la taille à laquelle on est, on veut...
The winner take all, quoi.
Exactement. Et c'est jamais assez. Et ils faisaient leur parallèle en disant, en Europe, et notamment vous les Français, vous êtes plus épicuriens que nous, et donc arriver à un certain stade...
Prends le pognon
bon,
et on va jouer au golf.
Exactement.
Et encore, ils ne voient pas le champagne qui est à côté, quoi, quand tu nous dis ça.
Exactement. Donc il y a ce premier sujet un peu culturel et qui est aussi relatif à l'ambition quand on crée une boîte. Voilà, on revient, moi, quand je rencontre Vincent Huguet, ce qui me convainc, et je lui pose la question d'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, je lui dis, les yeux dans les yeux... Est-ce que si demain, tu as un chèque de 500 millions, tu revends et tu pars à la plage ? Dis-le moi, parce que si c'est ça l'histoire, moi, je rejoins pas Malte. Et donc, on sait ça aussi, d'avoir un alignement sur l'ambition qui est d'avoir un plan A, qui est d'aller le plus loin possible. Et on ne sait jamais de quoi demain est fait. Il faut être prêt à avoir un plan B si jamais le plan A ne fonctionne pas. Mais en tout cas, le plan A du top management de Malte, et en tout cas de Vincent et de moi-même, c'est de créer un leader mondial. Et on n'a pas envie de céder la boîte, quel que soit le chèque aujourd'hui.
Mais tu veux dire, donc déjà, le premier élément de réponse que tu amènes, c'est le mindset.
Le mindset, exactement.
Ce n'est pas une question juridique,
où
tu as des conseillers syndicaux qui déboulent, c'est le mindset.
Non. Le mindset, mais le mindset est aussi impacté par les exemples que tu peux avoir. Comme on manque un peu d'exemples, c'est aussi plus difficile.
Ouais, donc c'est aussi c'est un cursus où tu me dis, les jeunes aux États-Unis, ils sont entraînés dès le plus jeune âge à pitcher et à devenir des leaders dans leur domaine.
C'est évident. Donc ce sujet culturel, pour moi, il est extrêmement fort. Et après, il y a une réalité quand même de marché. Hein. Quand on regarde n'importe quel business, aujourd'hui, tu regardes le marché américain, il est en moyenne 10-15 fois plus gros que le marché français. Donc quand tu es sur un objet qui est 10-15 fois plus gros, c'est aussi plus facile de créer des grosses boîtes quand tu es aux États-Unis. Et après, si on fait la comparatif avec l'Allemagne, sur les entreprises familiales, on a eu historiquement un problème de fiscalité, c'est-à-dire que voilà, en Allemagne il y a énormément d'ETI qui sont des histoires familiales.
Comment s'appellent d'ailleurs les ETI allemandes, apporte un nom.
Mittelstand.
D'accord.
Il y en a 10 000 je crois des ETI en Allemagne, je crois qu'on a 5 000.
Tu t'es fait moucher.
Non, pas du tout, j'allais dire les Länder, ça n'a rien à voir.
Les régions ça.
Il n'y a pas un autre élément qui est aussi peut-être une culture, on n'est pas très internationaux et peut-être qu'on pense les boîtes franco-françaises au départ, alors que tu vois les Allemands souvent, même les Espagnols, on se rend compte, ils sont déjà beaucoup plus, donc on va faire 2-3 pays et donc nativement ils sont plus structurés.
Je pense qu'il y a deux choses qui sont en lien avec ce que tu évoques. Le premier, c'est qu'on a tendance à penser encore qu'on a un grand pays, donc en se disant tu vas créer une grande boîte en France, ça va déjà être énorme, et effectivement c'est déjà énorme, mais ce mindset originel de dire est-ce que je crée une boîte d'abord qui doit marcher en France pour ensuite aller dans d'autres pays, ou est-ce que je crée une boîte internationale dès le début, c'est un sujet extrêmement clé.
Ce que font bien aussi les Nordiques d'ailleurs.
C'est vrai que l'avantage qu'ont les petits pays, à l'inverse quand t'es belge, que t'es néerlandais ou que t'es nordique, c'est assez vite tu vas faire ton pitch auprès de VC, si t'expliques que tu vas rester dans ton home country, tu crées vraiment une petite boutique. Donc, et puis en plus ils parlent effectivement beaucoup mieux anglais que nous en moyenne, donc il y a ce culté un peu frenchy, on continue de le voir. Nous, on a racheté une boîte en Allemagne. Oui, le niveau moyen des équipes de Malte en Allemagne en anglais est un peu meilleur que les équipes de Malte en France. Donc, on a toujours un petit peu ce petit retard, mais je crois qu'on le comble quand même au fil du temps.
Si on revient peut-être sur un point, c'est quand même des décisions qui ne sont pas faciles. Là, celle que tu as prise, tu dis j'amène des process, tu amènes de la rigueur. Ouais, en gros, les gars, ils s'amusaient bien et toi, tu commences à mettre des règles un peu partout. Comment on fait pour ne pas casser une culture d'entreprise et pour quand même conserver l'ADN, l'esprit, tu vois, et pas arriver et plaquer des process parce que c'est utile, mais comment tu fais pour doser ça ?
Ouais, parce qu'en plus, comme tu dis, c'est une question importante, parce que les mecs qui viennent à la base pour une culture start-up, comme tu dis, peut-être un peu plus freestyle, et toi, tu arrives et tu siffles un peu la fin de la récré quelque part.
Ouais, alors voilà, l'image est bonne, mais justement, pas arriver en sifflant la fin de la récré, mais plutôt essayer de trouver des exemples un peu frappants, saillants, qui sont inattaquables. J'arrive, c'est une habitude de faire une petite soirée le jeudi soir, le vendredi matin, il n'y a pas grand monde au bureau. Donc tu prends 2-3 exemples où on ne peut pas te dire « mais non, on bosse à fond le vendredi matin, etc. » Donc ça marche. Je suis arrivé en réunion commerciale, je leur ai monté un graphique, ils ne savaient pas ce que c'était. C'était le nombre de déjeuners clients qu'ils faisaient par mois, et la moyenne était à 0,2. Donc on a une équipe commerciale qui déjeune moins d'une fois par mois avec ses clients. Donc,
ouais, ça, c'est fact-based.
Des choses sur lesquelles tu sais que normalement, tu ne vas pas susciter une levée de bouclier. Ouais. En revanche, effectivement, là où ta question est extrêmement bonne, ce qui me faisait le plus peur en arrivant, c'était ça. C'était de me dire, je vais vouloir aller trop vite et je vais un peu casser le jouet. Et donc, la manière d'adapter la vitesse du changement, c'est un, de démarrer avec des choses un peu inattaquables, et deux, d'embarquer le top management. Donc, c'est d'avoir dans le top management des gens qui étaient d'accord avec le diagnostic. Est-ce qu'on est d'accord que si on veut continuer le scale, qu'on veut écrire l'histoire qu'on a envie d'écrire, il va falloir qu'on mette un tout petit peu plus d'huile de coude.
Et ça, tu le fais en one-to-one quand tu dois les embarquer, les gars, ou tu les réunis tous d'un coup ?
Un peu les deux. Puis il faut aussi que ça vienne un peu de l'intérieur, c'est-à-dire que cette prise de conscience, moi je suis quelqu'un qui a un peu un regard externe et qui arrive avec un peu son rapport d'étonnement. Et si ce rapport d'étonnement il n'est pas partagé, le changement il se génère pas du tout. Donc ça on l'a fait un petit peu au fil de l'eau. Et effectivement, le fait d'embarquer le top management a été extrêmement clé parce que tout le monde avait envie d'aller vers une culture d'entreprise un peu différente. Encore une fois, on n'a pas fait quelque chose d'orthogonal. On a gardé les éléments de force de l'entreprise, mais on a ajusté un peu. Et puis j'ai aussi essayé d'expliquer que la culture de l'entreprise, c'est un objet mouvant et donc elle évolue constamment.
C'était très clair quand tu es arrivé que de toute façon, il y allait y avoir des changements. Oui. Donc tu as été transparent là-dessus, il n'y a pas eu de non-dit.
Non, j'ai essayé effectivement, je le disais, au bout de 30 jours, je suis arrivé devant toute la boîte avec pas ce niveau-là de certitude, mais avec un premier rapport d'étonnement en disant voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai envie de changer et voilà ce qu'on va faire dans les 6 prochains mois. Donc il n'y avait pas de surprise en tout cas en interne.
Du coup, donc t'es passé de quel stade à quel stade et tu vois la question qu'on se pose, c'est quoi ta grosse ambition là, sur 5 ans?
Eh ben, du coup, quand j'arrive aussi pour faire une bonne punchline marketing en externe.
Vas-y, on aime bien les trucs clés, là, l'oral, ça passe bien.
Mais j'ai fait rigoler pas mal de gens à l'époque. J'arrive, ça fait un mois que je suis dans la boîte et j'ai dit on va faire 1 milliard en 2024. La boîte faisait moins de 100 millions quand j'arrive. Et donc, ça faisait un peu rigoler parce que le milliard. Et en même temps, c'était quand même le plan avec les actionnaires. C'est-à-dire que ce n'était pas un chiffre en l'air, exactement. Et en fait, je crois beaucoup, moi, même si aujourd'hui, les nouvelles générations, ça ne fait pas vibrer les chiffres, hein, c'est pas ça, c'est le projet d'entreprise, bien entendu, c'est donner du sens, etc. Mais pour autant, ça, le fait de formaliser ce milliard et ensuite de rembobiner le film, ça a vachement aidé à aussi voir les décisions qu'il fallait qu'on prenne pour qu'on accélère le scale sur un certain nombre de sujets. Et donc, pour répondre à ta question, dans les 5, je passe 5. Là on a fait x10 sur les 3-4 dernières années. Si on pouvait refaire x10 dans les 10 prochaines années, parce que c'est quand même un peu plus difficile, donc 10 milliards en 10 ans, ce serait un bel objectif. Souvent, ce que je dis aussi aux équipes, le milliard le plus difficile, c'est le premier. Donc,
Et si tu prenais
déjà fait 2 milliards, ouais, déjà.
Ouais, t'avais déjà fait. Si tu voulais prendre quelques exemples de ce que tu as changé, pour qu'est-ce que tu as apporté pour bien scaler une boîte, justement, pour passer, là, pour continuer les 100% de croissance par an?
Alors, déjà, on en revient toujours un peu au poncif, mais moi, un des bouquins qui a bercé ma jeunesse, qui est un vieux livre, qui est le livre de Jim Collins, From Good to Great, il y a un concept qui est pour moi fondamental et qui était aussi dans la tête des fondateurs de Webhelp, et qu'on a repris aujourd'hui, qui est un bout de notre. D'un des mal principles qui est always start with the who.
C'est quoi un mal principle, c'est ça?
C'est les principes de leadership, de management, on en a 6 qui en fait codifient les behaviors, les comportements qu'on attend.
D'accord. C'est posé, c'est écrit.
Exactement. Okay. Voilà.
Et donc, veux-tu parler du premier? Excuse-moi, je t'ai coupé.
Donc, qui est always start with the who. Et ce qu'il y a derrière, c'est à la fois recruter les meilleurs. Et souvent, quand on dit recruter les meilleurs, et le livre d'Antoine Fraisse décrit ça parfaitement bien, on oublie aussi les faire travailler ensemble. Recruter des gens très bons, finalement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Le plus difficile, c'est de les faire travailler ensemble. Et donc, le fait d'avoir cette adéquation avec la culture et des gens talentueux, c'est souvent le moins évident. Et donc, dans les choses qu'on a faites au début, c'est on s'est mis d'accord sur le fait de dire il faut qu'on ait une A-team sur le top 30 de l'entreprise. Ça va prendre 2 ans, mais ça va être ce qui va nous faire le scale des années suivantes. Moi, je considère aussi assez souvent, et je pense que je suis un peu un exemple, c'est de recruter les gens 2 ans avant qu'ils soient impactful. Quand tu scales, il faut que tu anticipes le besoin qui sera là dans 2 ans. Quand tu recrutes quelqu'un, il n'est pas efficace la première année, au moins il y a quand même un temps de montant en compétences. Et donc le fait d'anticiper en permanence, de se dire, attends, c'est quoi, de quelles compétences je vais avoir besoin dans 2 ans, ça fait que tu rembobines le film et tu prends des décisions hyper en avance. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est encore une fois, on a redéfini la plateforme de marque et on a redéfini les piliers de la culture l'année où je suis arrivé.
On parle beaucoup de culture, excuse-moi, mais tu l'as défini. Vous avez une phrase qui décrit un peu cette culture, ce qu'on entend souvent en podcast.
Ouais. Moi, la meilleure définition, alors j'en ai plein des définitions que j'aime bien sur la culture. C'est simplement les comportements de l'ensemble des collaborateurs. C'est ce qui se passe quand le CEO n'est pas dans la salle. Et je pense que quand la culture elle est forte, c'est quand ce qui se passe quand le CEO n'est pas dans la salle est assez similaire à ce qui se passe quand le CEO est à l'intérieur de la salle. Et la dernière élément qui m'a marqué, et je raconte ça, mais ça fait rire mes collaborateurs s'ils m'entendent, parce qu'ils m'ont entendu 50 fois le dire. Mon prof, j'ai eu un prof sur la culture à Stanford qui disait une bonne culture, c'est une culture qui n'a pas le goût de la vanille. Et là, on a un amphithéâtre, on est 150, c'est-à-dire pourquoi il nous parle de glace à la vanille. Et après un grand blanc de 10-15 secondes, il dit mais c'est évident, parce que tout le monde aime la vanille, mais personne n'adore la vanille. Et la culture, c'est quelque chose qui doit être vraiment aimé et adoré par les gens que vous voulez recruter et garder, mais qui doit aussi être détesté par d'autres. Et ça, je trouve que c'est là où cet exemple-là, il est saillant, il est puissant, c'est que quand tu grandis, le principal risque, c'est que ta culture, elle se vanille. Ease. Parce que tu recrutes des gens de l'extérieur qui vont arriver avec leur propre mindset.
On a notre punchline pour le podcast. Arrêtez de manger de la vanille.
Il y a peut-être des gens qui adorent la vanille.
Méfiez-vous de la vanille.
Mais c'est le cas sur tous les sujets dans un scale. C'est-à-dire que tu te rends compte surtout que tout peut se vanilliser assez rapidement si tu n'y mets pas un mindset et une force collective extrêmement, extrêmement importante.
Donc là, tu nous as dit le RH, bon, tu es vraiment pour avoir les bonnes personnes au bon endroit. Évidemment, la culture dont on vient de parler. Qu'est-ce que tu as fait du côté des clients ?
Alors, et après, je pense qu'il était un peu... Oui, alors, c'est un très bon sujet. Je suis une entreprise de B2B avec beaucoup de gros B, on l'a vu tout à l'heure. Je considère qu'on ne peut pas être patron d'une entreprise comme la mienne sans être le premier commercial de l'entreprise. Et donc, ce que j'ai fait quand je suis arrivé, j'ai passé un tiers de mon temps en clientèle pour écouter les clients, si les entendre sur ce qui leur plaisait, ce qui leur convenait un petit peu moins. Mais aussi pour gagner la légitimité auprès des équipes commerciales, en montrant que voilà, j'allais être avec eux, que j'allais les aider à ouvrir des portes, aider à vendre. Et donc, j'ai passé énormément de temps. Et quand je suis arrivé, il n'y a pas de direction commerciale. J'ai tout le marketing et le commercial en direct. Et Vincent me demande, est-ce que tu veux qu'on recrute quelqu'un de suite ? Je dis non. J'ai envie d'avoir mes 17 direct reports, mais comme ça, je vais comprendre le business et je vais comprendre comment fonctionne
ça. Ouais, donc tu as été sur le terrain, quoi.
J'ai été sur le terrain.
C'est l'histoire des cadres chez Renault qui vendent des Renault.
Exactement. Mais je l'ai vraiment recherché et demandé, parce que je pense que pour moi, c'était le meilleur onboarding qui soit pour comprendre l'entreprise, pour comprendre comment il fallait peut-être faire évoluer un peu notre produit vis-à-vis de nos clients corporate qui attendaient quelque chose d'un peu différent d'un produit qui avait été conçu au départ pour des SMB et des mid-size companies.
Mais combien, enfin Alexandre, je connais, je ne citerai pas les boîtes, mais combien de directeurs marketing ou des gens même à top level ne vont pas sur le terrain juste vendre ou écouter le service client après-vente, tu vois, se faire ce taf-là, quoi.
On est d'accord, et mais on en revient à la vanille et quand tu scales, et on est parfois, nous aussi, on n'est pas exemplaires là-dessus, de nos jours, dans nos boîtes, on a trop de data, on a trop d'outils, et donc tu peux facilement te complaire derrière ton écran à regarder des KPI. Et en fait, effectivement, le fait d'être frontline, c'est le fait d'aller parler à des freelances, d'aller parler à des clients. Là, nous, on a fait 3 jours, parce qu'on a racheté une entreprise allemande l'année dernière, on est en train de merger le produit. On a fait 3 jours de frontline avec toute la boîte. On a appelé tous les consultants indépendants de Comatch, qui est la société qu'on a rachetée, et c'est toute la boîte qui a appelé les consultants. Donc c'était, pour moi, à la fois, c'était une manière de ne pas externaliser, de faire des économies de coûts, mais c'était surtout sur le fait de dire à chacun, vous serez meilleur dans votre job si vous parlez à des clients et à des freelances. Et rapidement, ce n'est pas quelque chose qu'on priorise dans nos agendas, et c'est bête.
Et toi, 3 ans après, comment tu gardes le contact terrain ? Vous, les clients ?
Je continue d'être... Alors, je pense aussi parce que les équipes, c'est toujours pareil, hein, les équipes, elles t'appellent, elles te sortent si elles trouvent que t'es utile. Hein, sinon, au bout d'un moment, tu reçois plus de Slack, tu reçois plus d'appels et ils préfèrent faire les meetings sans toi. Donc, je pense qu'ils trouvent que je peux encore apporter quelque chose. Donc, ils me sollicitent très fréquemment, soit pour ouvrir des portes, soit pour aller en rendez-vous avec eux, y compris à l'international. Donc, ça, c'est une bonne manière de rester frontline. Et là, cette session qu'on a fait pendant 3 jours, moi, ça m'a donné envie de sanctuariser 30 minutes dans mon agenda toutes les semaines pour appeler quelques freelances. Donc, je pense que c'est quelque chose qui demande à Et je dis souvent à mes managers,
il va t'appeler Momo.
Regardez votre agenda et c'est la meilleure manière de savoir comment vous bossez en fait. Et moi, je me fais souvent la réflexion à la fin d'une semaine, je regarde mon agenda et je me dis mince, j'ai pas réparti mon temps comme je devrais le faire, mais de faire cette analyse toujours a posteriori.
Rappelle Olivier Brouin, il nous avait dit ça, il nous avait dit si la première chose c'est de faire la prospection et que dans votre agenda il n'y a rien sur la prospection et que vous n'y passez pas une heure, vous ne posez pas la question. Quoi.
Ah, et ta boîte elle est. Ouais. Et Olivier Brouin, qui avait exactement la même ambition que toi en termes de chiffre d'affaires. Quoi.
Ouais, boîte au milliard. Ouais.
Tout sur nos agendas.
Ouais, c'est l'audit. Donc le tip, c'est l'audit d'agenda hebdo.
Ouais, je pense, en tout cas, de se faire sa propre analyse. Mmh. Moi, j'essaye de. En fait, je catégorise un peu 4 sujets. Des sujets RH, donc recrutement, management, qui prennent quand même du temps, après un quart du temps. Mmh. Des sujets clients, que j'essaye d'aller à un quart de mon temps. des sujets de management de la boîte, à peu près un quart du temps, et le dernier quart qui se fait toujours manger, c'est les sujets plutôt forward-looking, de réfléchir un peu à l'avenir. Et donc à la fin de la semaine, je dis, est-ce que je suis respecté à peu près mes quatre quarts, ou est-ce que voilà,
et c'est bouffé par
voilà, l'opérationnel, les réunions internes, enfin tu connais ça aussi.
Ok, super intéressant, le un quart. En fait, il y a quelque chose qu'on aime bien creuser, c'est toi en fait en tant que leader d'une grosse compagnie, comment tu t'en sors en fait dans ce monde impitoyable? Est-ce que tu as des routines particulières, des choses que tu maintiens malgré tout et qui font que tu arrives à bien équilibrer les choses déjà?
Ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut. C'est très personnel, ça, comme question. Moi, je sais que mon rythme, il me convient si je peux bien dormir.
Le sommeil.
Okay. Ouais, le sommeil. Pouvoir trois fois sur cinq rentrer chez moi et voir la famille avant qu'elle se couche. Et essayer de vraiment évacuer le week-end, c'est-à-dire de ne pas, pas être sur le PC le week-end. C'est un peu ça la discipline que
tu essaies de fixer.
Voilà. Et à partir du moment où je suis sur ce rythme-là, je suis capable de rester énergisé pendant, j'espère, très longtemps.
Deuxième question, tu en as cité pendant le podcast des livres, mais oui. est-ce que tu en as un en particulier que tu conseilles? Tu parles de Good to Great.
Ouais, alors celui-là, effectivement, il est connu et archi connu. Le dernier que j'ai lu, parce que j'ai dîné avec lui, c'est un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle From Zero to IPO, de Frédéric Kerest, qui est le cofondateur de Okta. Okta, c'est une société de software qui vaut 11 milliards d'euros aujourd'hui, qui a fait l'IPO il y a 3-4 ans. Et il a écrit un livre, From Zero to IPO, et là où j'aime beaucoup son livre, c'est que c'est vraiment son retour d'expérience de ses 20 ans à la tête d'Okta, en passant des sujets qui sont ceux qu'on a abordés, la culture d'entreprise, le leadership, comment on gère son board. Et il écrit vraiment de manière assez directe. C'est un franco-américain, donc c'est pas trop marketing à l'américaine. Et ouais, j'ai eu la chance de dîner avec lui il y a 3-4 semaines, donc j'ai eu un condensé de son livre, et du coup j'ai enchaîné avec le livre. Et
t'as pu avoir la petite dédicace.
Exactement.
Qui va bien. Et une dernière question, c'est est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais nous recommander, que tu pourrais inviter pour être à ta place ici dans le podcast?
Oui, sans doute. J'ai parlé, on a pas mal parlé. Moi, j'ai fait deux histoires principales entrepreneuriales chez Webhelp et chez Malte. Ouais. Donc, le CEO et fondateur de Webhelp, Olivier Duha, il serait très intéressant.
Si tu as le 06,
j'ai le 06. Ouais. Après, il faut le convaincre de venir jusqu'ici parce qu'il est à Bruxelles. Mais
on peut se déplacer.
On peut essayer.
Il n'y a pas de problème.
Très bonne idée.
Julien, je te laisse conclure avec les points saillants que tu as retenus, le meilleur moment de ce podcast.
Écoute, déjà le premier, j'ai bien aimé toute ton analyse sur cette adéquation que tu dois avoir et le temps que tu as pris pour matcher avec les PDG. Et que les PDG, ils ont compris qu'ils avaient besoin de quelqu'un aussi plus fort qu'eux sur un point faible. On a fait la même chose avec Aymeric, on a mis un peu de temps à se matcher ensemble, tu vois. Mais on a compris que tous les deux, on était un peu feignants sur certains points. Et on s'est dit, allez, il nous faut un cyborg.
On a scalé avec un vrai CEO du podcast, faut le dire.
On a trouvé notre cyborg. Tu vois, on a pris un peu de temps. Mais sérieusement, j'ai bien aimé toute ton analyse que tu as fait sur... tu avais différents points à analyser. Tu as pris vraiment le temps de voir si ça matchait. Tu ne prends pas un poste comme ça sur un coup de tête.
Non.
Ça ne s'est pas fait comme ça. Après, on parle beaucoup de culture start-up dans le podcast, qui deviennent des scale-up et ainsi de suite. Et ce que tu décris finalement, et on n'en parle pas assez, je trouve, dans le podcast, c'est que cette culture start-up un peu freestyle, qui n'est pas très processée, à un moment donné, on a beau dire les corpos, c'est pas cool, c'est chiant, machin. Tu te rends compte que ces bons gros process que les corporates déploient, il faut quand même les appliquer de manière un peu... J'aime bien quand tu me parlais, ça faisait un peu militaire, mais dans le bon sens du terme. C'est un militaire, c'est bienveillant, il y a de la rigueur, et puis de temps en temps, tu laisses un... Enfin non, il n'y a pas trop de souplesse chez les militaires, je dis une connerie.
Oui, je sais pas ce que tu allais dire.
Ouais, je vais dire une bêtise. Et, troisième point, tu as énormément parlé de culture d'entreprise et que tu essaies quand même de... Tu te bats, j'ai l'impression, au quotidien pour maintenir cette culture-là, alors que la boîte est en train de grandir à vitesse grand V. Et je rajouterai un quatrième point, parce qu'il m'a paru important, celui-là, c'est quand même d'aller sur le terrain, cette notion de passer du temps et de bien sanctuariser ton agenda, parce que on le voit beaucoup, les gens ne prennent pas assez le temps, surtout dans des fonctions de top management, d'écouter le client. Et toi, finalement, tu ne l'écoutes pas, tu vas vendre ton produit. Et tu continueras à le faire, même si vous êtes 3 à 5 000 demain, j'imagine, non?
Oui, et si je peux ajouter, d'ailleurs, c'est écouter le client et c'est aussi, je suis assez convaincu, de continuer à écouter la frontline de l'entreprise.
Ce que tu appelles la frontline ?
Les gens qui sont en contact des clients et des freelances. C'est-à-dire des gens que tu as connus quand tu es arrivé dans l'entreprise et tu gardes des relations avec eux dans la durée. Je sais qu'il y a des gens, si j'ai une question à leur poser, certes, je peux passer par le N+1, le N+2, mais parfois, je préfère aller demander à la personne directement parce que ça aussi, ça permet de...
Tu sais, d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, j'avais une anecdote, enfin, je suis désolé, un peu perso, mais je l'ai vécu dans un groupe où le PDG du groupe, il prenait tous les nouveaux qui étaient stagiaires et de temps en temps, il faisait un déjeuner avec les gens.
Moi, je fais ça. Moi, je fais un petit déjeuner une fois par mois.
Je trouve ça génial parce que du coup, tu es tout fier parce que tu as ton président qui t'invite à déjeuner et c'est là où tu remontes aussi, à mon avis, les bonnes infos.
Exactement.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout l'épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à parler de ce podcast autour de vous et si vous voulez nous soutenir, dites-le nous sur notre page LinkedIn ou sur votre application de podcast préférée. Merci.